déambulation.
Donc tu te souviens pas avoir pleuré, avoir dérangé tes parents pendant la nuit quand t'étais bébé?
Non.
Ah non, ouais.
Ça veut dire qu'on dort bien, c'est tout.
Il dormait pas la nuit, il se réveillait tout le temps.
J'ai fait un burn-out.
L'enfer.
Oh, je pense que j'ai fait une dépression sans m'en rendre compte.
C'est comme si c'était intégré dans notre société que tu allais en chier avec tes enfants et que tu n'allais pas dormir pendant plusieurs années.
Bonjour à tous. C'est au gré d'une discussion autour du livre « Au dodo les petits » de Anna Wahlgren que l'idée de cette déambulation a émergé. Anna Wahlgren est suédoise et son travail repose sur l'élaboration de techniques qui s'avèrent salvatrices pour gérer les nuits infernales des petits êtres. Je suis Majdouline et nous allons donc parler du sommeil des nourrissons et par extension de parentalité. Je suis allée rencontrer 4 foyers, dont 2 couples hétérosexuels et 2 mères en monoparentalité.
Alors effectivement, c'est un vrai sujet.
Mélodie.
Donc surtout, je crois, quand on choisit d'allaiter. Parce que j'ai entendu dire de plusieurs témoignages qu'un enfant nourri au biberon fait très rapidement ses nuits. Tandis qu'un enfant qu'on allaite a tendance à se réveiller vraiment régulièrement pour avoir la quantité de lait suffisante, qu'il nourrit suffisamment. Je pense que dans les laits qu'on commercialise, il y a vraiment tout ce qui va les nourrir, les colmater quoi, pour vraiment passer une nuit à digérer et à recevoir... tous les nutriments, etc., etc.
Donc toi, tu as allaité ?
Donc moi, j'ai fait le choix d'allaiter. Et ça a été une réelle expérience.
Alors, notre premier enfant a mis environ 3 ans à dormir correctement la nuit.
Émilie et Cyril.
Avec des hauts et des bas, mais en gros, pendant 3 ans, il s'est réveillé quasiment toutes les nuits.
3 ans, c'est long.
Ouais, c'est long, c'est de la torture en fait, de se réveiller chaque nuit pendant 3 ans. Avant, on n'avait pas de cheveux blancs, ni de poils blancs. À cette époque-là, on n'avait pas de ressources. Enfin, ouais, on n'a peut-être pas cherché non plus, à part le laisser le pleurer, ce qu'on a dû essayer aussi et qui n'a pas marché. On ne savait pas bien quoi faire. Et puis, un jour, on nous a parlé de « Au dodo les petits » de Anna Wahlgren. Et bon, c'est vrai que cette méthode, en lisant le bouquin, tout de suite, c'était pas de gaieté de cœur que je l'aurais appliquée. Mais ça avait l'air d'être tellement efficace que quand même, on l'a mise en pratique.
Alors, je vais parler de Anna, qui a 4 ans et qui dort 12 heures par nuit depuis qu'elle a 3 mois.
Oriane et Vincent.
Donc ce qui veut dire qu'elle ne tète plus la nuit depuis qu'elle a 3 mois. Et pourtant, je l'ai allaitée jusqu'à ses 2 ans. Et c'est grâce au livre « Au dodo les petits » que nous avons comprendre et tester la philosophie et l'expérience de Anna Wahlgren qui a écrit ce livre. Et donc notre petite Anna maintenant, même quand elle est malade, quand elle est fatiguée, elle demande à aller au lit, elle sait que c'est un endroit de régénération, de plaisir, et elle dort toujours autant, 4 ans plus tard.
Et la petite aussi là, qui a 4 mois et demi, là ça fait quoi? Ça fait 2 semaines maintenant qu'elle fait ses 11, entre 11 et 12 heures par nuit.
Et donc c'est avec le deuxième qu'on a commencé la méthode au dodo les petits. Quand il avait 5 mois, je crois, quand on a eu le livre dans les mains. Et à cette époque-là, il se réveillait quelque chose comme 8 fois par nuit. Et là, j'ai croisé des amis qui m'ont dit « Ah, mais nous, notre petite, elle a 3 mois et elle dort 12 heures par nuit. » Là, ça fout un peu les boules. T'encaisses avec le sourire « Ah ouais, t'as de la chance !» Et là, t'es là « Putain !» Ça ne peut pas durer comme ça. On avait déjà eu tellement de mal avec le premier que ce n'était pas imaginable de recommencer pareil avec le deuxième. Donc là, j'ai lu le bouquin en même temps que j'ai commencé à faire la pratique. Je n'ai même pas attendu d'avoir fini le bouquin tellement j'en pouvais plus. Et ça a été hyper efficace. La deuxième nuit, il s'est déjà réveillé plus qu'une seule fois. Et puis, au bout d'un mois, il ne se réveillait plus. Quoi.
Et moi, alors, parlons du sommeil de mon fils, qui a aujourd'hui 6 ans.
Léa.
Qui est née en 2016. À l'époque, moi, j'avais 25 ans. Donc, je pense que ça participe aussi à la difficulté. J'étais peut-être pas tout à fait prête à tout ça. Et puis, j'ai passé quand même pas mal de temps toute seule. Dans un bled perdu qui s'appelle Les Chandiois, où il y a concrètement plus de vaches que d'habitants. Et moi et mon petit garçon, puisque son papa, bah, du coup, il travaillait pour amener de l'argent dans notre foyer, quoi. Et ici, il y a des grandes difficultés pour faire garder les enfants, donc j'ai pu le faire garder qu'à partir de l'âge de 2 ans et demi. Donc, de 0 à 2 ans et demi, en gros, j'étais seule avec mon môme, quoi.
Alors, du coup, tu étais toute seule face à ton fils ?
Ouais, un petit garçon qui était super énergique et qui avait, du coup, des grandes difficultés à s'endormir parce qu'il voulait croquer la vie à pleines dents. Et du coup, il lâchait pas le morceau, même s'il était au bout de sa vie, il lâchait pas le morceau, quoi. Et du coup, je me suis vue faire des trucs complètement improbables. À pied, en porte-bébé, en poussette, le jour, la nuit, sous la neige, en plein cagnard, marcher des plombes. Et c'était vraiment des techniques, mais complètement improbables. J'ai essayé de lire des bouquins, j'ai essayé voilà, des méthodes sur Internet. Parce que je pense qu'au bout d'un moment, moi, à force de manquer de sommeil, je manquais de patience. Et je me suis fait peur à plusieurs moments. J'ai eu peur aussi pour mon fils, parce que je craquais, quoi, nerveusement. Je craquais.
C'était... Il se passait quoi dans ces moments, par exemple ?
Des grandes montées de colère, quoi. Parce que je crois que j'avais aussi besoin de répit. Et que le moment où il dormait, c'était une heure pour moi où j'avais rien à gérer. En dehors du fait que physiologiquement, je sentais qu'il avait besoin de dormir, j'avais aussi, moi, besoin d'une période d'accalmie, quoi, de pause, pas de bébé. Et du coup, c'était devenu ma mission, quoi. Endormir mon fils.
Bah à la naissance, un petit bébé, quand il naît, pendant 2-3 jours, il mange, il dort. C'est très facile. Les 3 premiers jours, on s'est dit, ouais, c'est du bonheur. Et là, d'un coup, les nuits se transforment. Donc à peu près toutes les 2 heures, l'enfant se réveille pour recevoir la tétée. Donc du coup, en plus, nous, on a fait le choix d'avoir notre enfant dans le lit à la naissance. Et justement pour ça aussi, pour ne pas avoir à se lever la nuit pour les tétés, que ce soit accessible directement de mettre l'enfant au sein. Donc ça, je pense que ça a un petit peu soulagé. Mais au niveau des habitudes pour l'enfant, je ne suis pas sûre que finalement ça l'aide à se détacher. Sinon, pour dormir, en fait, notre enfant, il lui fallait des terrains 4x4. Il fallait un moteur de camion à fond, il fallait que ça bouge. Il fallait une poussette qui va dans des terrains remplis de cailloux pendant des heures pour qu'il puisse enfin s'endormir. Donc autant dire que ça a été une réelle aventure d'endormir notre fils.
En ayant comparé avec d'autres parents, je rêvais de ces mamans qui me disaient « Mais non, mais moi, il n'y a pas de problème, je le pose, il dort. » Ah ouais ? Ah ouais, non, mais moi, j'en suis pas là, quoi. Moi, il me faut 1h30 de mandouka dans le village à le secouer comme ça et à faire des bruits de... pour qu'il finisse par s'endormir. Et une fois qu'il dormait, je sentais son poids mort dans mon dos. Il fallait que je le pose. Et là, c'était toute une histoire. Je me mettais sur le dos, je le décrochais, je faisais des contorsions. Et vraiment, à partir du moment où j'avais franchi le seuil de la porte, c'était presque une victoire, quoi. Sauf que des fois, il se réveillait et là, t'es là, « Ah non, faut tout recommencer, c'est horrible !» Non, non, c'est vraiment, ça a été une mission, quoi. Ça a été vraiment une mission. Puis, je pense que ça s'est... Je dirais que de 0 à 9 mois, ça l'a fait. C'est comme si c'était un cycle. Et de 9 à 18, ça a été l'enfer. Il ne dormait pas la nuit, il se réveillait tout le temps. J'ai un petit garçon qui faisait du somnambulisme. Donc, c'était le gros trip. Hein. Il avait les yeux grands ouverts, il pleurait. C'était hyper difficile de le faire connecter à la réalité, parce qu'il avait peur, en fait. Je pense qu'il était entre deux eaux.
Toi, ton fils, à partir de quand est-ce que tu considères que son dodo était autonome ?
Moi, je pense que ça a commencé vers ses 1 an et demi. Ça a commencé quand il a eu 1 an et demi, 2 ans, ça a été tard. Mais il a fallu qu'on se pose aussi. Il avait besoin de ça. On était tout le temps en mouvement. Et même si on avait notre cocon qui nous suivait partout, je pense que vraiment le fait qu'on décide de de s'arrêter quelque part, de vivre quelque part, d'avoir sa chambre, son espace. Et puis l'âge aussi. L'âge où finalement j'ai arrêté de l'allaiter.
Voilà. Ah oui, donc ça, c'est vraiment un truc qui, pour toi...
Pour moi, c'est vraiment... Le sommeil est vraiment en lien avec l'allaitement. Et en plus de ça, la sage-femme qui s'est occupée de nous pour la naissance, parce que Ewa est née à la maison, donc on avait aussi une sage-femme à domicile, m'avait dit « Le lait nocturne, c'est le plus important. C'est celui qui nourrit le plus. » Donc, c'est normal qu'il se réveille la nuit pour téter. Et surtout, il ne faut pas l'en priver. Et du coup, c'est resté dans ma tête.
Et alors, un bébé, normalement, est-ce qu'il y a une moyenne d'âge à laquelle, soi-disant, il ou elle fait ses nuits? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un barème de mois où il y a un moment, les parents devraient avoir cette pression de dire « Alors, il fait ses nuits ?»
Mais en fait, on voit que c'est un sujet super tabou et qu'en général, quand tu demandes aux parents si leurs enfants dorment, ils te disent « Ah oui, moi, elle dort 6-7 heures d'affilée. » Et en fait, ça, c'est pas vers ses nuits. Dans l'absolu, l'enfant, en tout cas, par rapport à ce que dit Anna Walgreen, il a besoin de 12 heures de sommeil à partir de 4 mois. Avant, c'est un peu moins, mais déjà, dès un mois, il peut dormir 8 heures d'affilée. Et en fait, c'est comme si c'était intégré dans notre société que tu allais en chier avec tes enfants et que tu n'allais pas dormir pendant plusieurs années.
Et quand t'allaites alors pendant la nuit, enfin, est-ce qu'il y a cet appel de l'enfant qui appelle pour manger et du coup, tu es bien obligée de rompre ce sommeil pour l'allaiter ?
Alors oui, dans les 3-4 premiers mois, c'est clair que l'enfant, il a besoin de téter régulièrement aussi dans la nuit. Parce qu'il mange toutes les 2-3 heures, jour et nuit. Mais au bout d'un moment, en fait, on a vraiment pu constater avec Nour notamment, notre deuxième, qu'au bout d'un moment, elle avait juste besoin qu'on la laisse dormir. C'est-à-dire que moi, qui dormais à côté d'elle, j'ai dormi à côté d'elle pendant 3 mois, et une nuit, je me suis dit, j'en peux plus, j'ai besoin de dormir, ça fait 3 mois que je ne dors pas, ou que je dors 2-3 heures d'affilée. Et du coup, je suis partie du lit. Je l'ai laissée toute seule dans notre lit king size. Et là, elle a dormi 5-6 heures d'affilée. Alors que moi, je dormais en bas et que je ne comprenais pas ce qui se passait. Je pensais qu'elle était morte, mais en fait, non, elle dormait. Et du coup, j'ai compris qu'en fait, je la dérangeais dans son sommeil. Que le fait que je sois à côté d'elle, ben, ça l'activait, ça lui donnait envie de téter. Elle sentait ma présence, mon odeur. Et donc, c'est à partir de ce moment-là que j'ai compris qu'elle était prête à dormir. Et donc, j'ai utilisé quelques outils de la méthode au dodo des petits, mais vraiment pas beaucoup. Et en quelques jours, elle a dormi 9-10 heures d'affilée. Et là, c'est passé de 11 à 12 heures d'affilée, plus 3 siestes par jour.
Et oui, les siestes aussi, c'est important quand même.
Et toi, en tant que papa, tu dormais où à ces moments-là?
Alors, pour Anna, je dormais avec Oriane. Donc, en fait, on était tous les trois dans le lit. On avait installé un lit au dodo. Et du coup, il y avait Anna dans son lit cododo, moi et Oriane. Jusqu'au moment où petit à petit, après, on l'a mise dans un genre de berceau. Et après, quand elle a commencé à vraiment faire ses nuits, on l'a mise dans sa chambre, toute seule. Et pour Nour, par contre, moi, c'était compliqué de dormir. Puis j'avais pas envie, en fait, de dormir avec Oriane et Nour. Du coup, je me suis mis installé un petit matelas dans le salon. Pour pouvoir m'occuper aussi d'Anna, du coup, qui va à l'école, puis moi je bosse, tout ça, donc c'était compliqué pour moi de...
Donc la deuxième, ouais. Elle a été un peu gérée par toi, Oriane.
Elle a été 100% gérée par moi et j'en suis très fière, parce que j'ai pu me débrouiller toute seule. Bon, évidemment, la présence de Vincent a été indispensable dans la famille, mais en tout cas, j'ai réussi à caler ses nuits toute seule.
Je me suis sentie soutenue. Disons, quand je lui demandais de faire quelque chose, il le faisait. Mais c'est moi qui suis allée...
Le tracteur qui passe.
C'est moi qui suis allée chercher l'information, justement, avec au dodo et les petits. Je pense pas que Cyril aurait fait la démarche de trouver une solution. Ouais. Donc c'était quand même plus moi qui en souffrais. Mais oui, j'étais soutenue, c'est sûr. Heureusement. C'est tellement une période difficile à passer que vaut mieux faire équipe, c'est sûr. Et du coup, pour la troisième, comment ça s'est passé? Il n'y a pas eu cette cure qu'on a fait avec le second, parce qu'il n'y a pas eu de passage où elle se réveillait 8 fois par nuit. Ça a été plus progressif, du coup ça a été plus doux. Parce que c'est vrai que la période de la cure, ça a été dur pour nous. Pour lui, je crois pas, mais pour nous, oui. Enfin, pour moi, surtout, en tout cas.
C'est plus efficace avec le père qu'avec la mère, j'ai l'impression. Parce que le père, il n'a pas le même contact avec l'enfant. Et du coup, on est peut-être plus radical. Et l'enfant se sent plus en sécurité dans le sens où, avec une autorité douce, on lui explique qu'il faut faire ce que je dis de faire et c'est moi qui décide. Et ça, au début, c'est assez compliqué à comprendre parce qu'on n'est pas, habitué à faire ça. On pose toujours les questions aux gens. Est-ce que tout ça, ça va bien comme ça? Est-ce que ça va? On essaye d'être arrangeant. Et en fait, avec les enfants, c'est pas ce qu'ils demandent. C'est pas ce qu'ils ont besoin.
Donc là, pour la gestion du sommeil, vous avez eu des répartitions de rôles entre vous?
Au début, on faisait une fois sur deux, peut-être, non?
Ouais, c'est ça, parce qu'au début, on dort pas beaucoup, donc c'est bien d'être deux pour se
relancer. Ouais, voilà, on se relance comme ça.
Est-ce que tu as des techniques dont tu te rappelles du livre qui te reviennent?
Déjà, je dirais le mot-clé de cette technique, c'est l'attitude d'évidence. Ça veut dire que il faut être convaincu soi-même que ça va marcher. Il ne faut pas y aller en se disant, bon, peut-être que ça va marcher, peut-être que ça ne va pas marcher. Non, c'est bon. Cette fois, tu dors, c'est moi qui sais, tu vas dormir correctement, et moi aussi, et tout va bien se passer. Il ne faut pas douter de soi-même. Donc, ce n'est pas évident, surtout quand on est 3 ans de sommeil en retard. On n'est plus très sûr de soi, mais bon, on fait comme si tout allait bien.
Qu'est-ce que ça a changé dans toi d'être une maman?
Plein de choses. Plein de choses.
C'est quoi ton histoire de maternité?
Ben, c'est un petit garçon qui est arrivé comme ça, il n'a pas été prévu. Moi, j'étais hyper amoureuse. Le père de Sacha, il venait lui-même de perdre son papa et il y a vu comme un signe. On était dans une période hyper faste de notre histoire d'amour. Et du coup, je me rappelle de cette phrase qu'il m'a dite quand je suis arrivée avec le test de grossesse. Il m'a dit, mais fais-moi confiance, ça va le faire, quoi. Puis moi, je lui ai fait confiance. voilà. Mais j'étais jeune, hein, je tombais enceinte à 24 ans. Donc voilà, je pense que a posteriori, j'aurais aimé faire plus de choses dans cette période-là, 25-30, parce que maintenant j'ai 31 ans. Et je me suis pris une bonne claque quand mon fils a eu 3 ans. Quoi. Je me suis rendu compte que je serais maman toute ma vie. Et que voilà, il y a plein de choses que je ne pourrais pas faire ou faire différemment. Et du coup, on s'est séparés. Donc là, on a la garde alternée. Et je reconnais que pour moi, c'est un moment où j'ai du temps pour être juste Léa, faire des choses pour moi. Et la semaine où j'ai mon fils, je suis maman et j'essaie d'être la meilleure des mamans du monde. Mais j'avais besoin de ce temps-là, quoi. Parce que je pense que j'ai implosé dans mon bled minuscule, pas de permis, toute seule, avec mon petit bout. J'ai implosé, j'ai plus de vie sociale, ou très peu. Et puis c'est pas transcendant d'être maman. Enfin, quand tu vois tes copains qui s'éclatent, qui sortent, qui font la bringue... Et, demandez-toi, ça va? Ouais,
mon fils, toi, t'es fatiguée, t'as laissé un jusque-là?
C'est ça, mon fils, il dort pas, il fait ses dents, il a la diarrhée, mais tout le monde s'en fout, en fait. Enfin, tu vois, c'est pas fun, une vie de maman.
Et alors, au début, tu m'as dit que c'était un vaste sujet, que c'était un vrai sujet. Est-ce que tu peux me dire pourquoi?
Alors, en fait, quand notre sommeil il est affecté, on est beaucoup plus fragile, on est beaucoup moins patient, on est beaucoup moins cool. Déjà que c'est une chose de devenir mère, parent, du jour au lendemain. On n'a plus de place pour nous. On ne savait pas que, en fait, d'un coup, il n'y a plus que l'enfant. Et on se découvre en tant que parent. Donc déjà, c'est une énorme transformation intérieure. Et en plus de ça, d'avoir vraiment pas cette possibilité de se reposer, d'avoir du temps de recharger ses batteries en continu pendant autant de temps. c'est un réel sujet. Il peut y avoir, quand on n'est pas forcément soutenu, accompagné, ou qu'on n'a pas des clés, qu'on n'a pas des livres, des méthodes, ou des amis, ou de la famille. Parce que dans mon cas, donc moi, j'étais en voyage, donc je n'avais pas de téléphone, je n'avais pas d'ordinateur, on bougeait tout le temps, et on était vraiment dans un cocon familial. Je n'avais pas d'échappatoire, de relais, j'ai juste... Je me suis vraiment adaptée en permanence et je pense qu'il y a eu une dépression. Il y a eu vraiment des choses qui ont été difficiles. Il y a un dépassement de soi qui demande à aller puiser dans ses réserves très, très, très profondément. Et je crois qu'il y a beaucoup de mamans pour qui ça arrive. Et donc, c'est en lien avec un burn-out et c'est en lien, ça peut être en lien avec des dépressions. Et ça, c'est des sujets dont on ne parle pas beaucoup. Sauf quand ça nous est arrivé, mais c'est pas des choses qu'on ose, on n'ose pas en parler, c'est un peu des sujets tabous.
Radio du Diwa.
Alors, moi, un jour, je regarde une vidéo sur Internet qui parle du sommeil des enfants, comme quoi il y a un bouquin qui permet, qui propose une cure pour que les enfants fassent dodo.
Oriane et Vincent.
Et à ce moment-là... à ce moment-là, je crois que je sais même pas si t'étais enceinte, Oriane. Je crois pas. Si, l'info, je l'ai. Et du coup, moi, je me suis dit, mais en fait, je veux dormir. J'ai pas envie de galérer. Donc, j'ai acheté le bouquin avant même la naissance de notre première fille. Du coup, je l'ai un peu feuilleté. Finalement, c'est Oriane qui l'a lu un peu plus que moi. Mais quand même, je me suis. Ça m'a vachement parlé. Après, elle écrit un peu. C'est un peu spécial. Il y a des gens qui aiment pas, mais en tout cas. Du coup, nous, ça nous a permis d'avoir des principes elle propose, au-delà d'une cure, elle propose aussi des principes qui permettent à l'enfant de dormir. Donc nous, c'est ce qu'on a fait. Et tu veux en parler de ça, du reste ?
Alors, elle part d'une allégorie assez spéciale. C'est qu'elle imagine que nous, en tant qu'adultes, on se retrouverait dans un safari avec un guide en qui on a complètement confiance. Toute la journée, on se régale, il y a des animaux sauvages autour de nous. Et puis le soir, on se retrouve dans une tente et on est prêt de s'endormir. Et là, tout d'un coup, on entend des lions dehors de la tente. Et là, tout d'un coup, on est flippé, on n'arrive pas plus à dormir. Et du coup, tout d'un coup, il y a le guide qui rentre dans la tente et qui vient s'asseoir à côté de nous et qui nous dit « Mais t'inquiète pas, tu peux dormir tranquille, tout va bien. » Et en fait, nous, en tant qu'adultes pas du tout habitués à avoir des animaux féroces autour de nous, on aimerait plutôt que le guide y soit en dehors de la tente avec son fusil et qu'il soit prêt à chasser si jamais il y a besoin de nous défendre pour qu'on puisse dormir vraiment tranquillement. Donc elle fait cette allégorie en disant que un être humain qui vient au monde, il a une angoisse de survie et il est conscient que s'il n'y a pas un adulte pour s'occuper de lui, il peut mourir à tout instant. Il est dépendant forcément de nous. Et donc, quand tu le poses dans un endroit, il pense que la mort va venir le prendre. Et pour lui donner cette sécurité que la mort ne va pas venir le prendre... En général, le premier instinct qu'on a, parce qu'on est des êtres qui avons cet instinct de protection, ben on va prendre notre bébé et on va le consoler, on va le prendre dans nos bras et on va lui dire « Tout va bien, tu peux dormir !» Et en fait, du coup, on va le conforter dans l'idée que dans son lit, là où on l'a posé, il y a un danger. Et donc, du coup, on l'enlève en lui disant « Oui, tu as raison de t'inquiéter, il y a un danger dans ton lit, donc je te prends. » Sauf qu'en prenant l'enfant, on l'empêche de dormir. Parce que l'enfant, il a besoin, comme nous, de son espace, de sa tranquillité pour dormir. Et ça, c'est assez... Elle le défend dès le plus jeune âge, c'est-à-dire dès 2 à 3 mois, l'enfant, il a déjà besoin d'avoir son espace pour dormir. Et si on l'embête, si on vient avec de la lumière ou avec notre présence trop proche de lui, ben, ça le réveille.
Alors pour toi, Cyril, pourquoi c'est un Pourquoi c'est un sujet de société, le sommeil des enfants? Un sujet de société ou d'une affaire personnelle, peu importe, mais pourquoi tu as décidé de répondre?
Quand les enfants dorment bien, les journées se passent mieux.
Émilie et Cyril.
C'est d'une évidence, même pour nous en fait, pour tout le monde en fait, c'est très primaire. Dormir pour grandir, c'est nécessaire. Si on dort mal, on a des anxiétés, on est perturbé.
C'est ce qui t'est arrivé?
Moi oui, quand j'étais enfant, ouais. Après, il n'y avait pas la méthode. C'était un peu la méthode, t'es dans ton lit, tu dors tout seul.
Et on te laisse pleurer?
Et on nous laisse pleurer. Ouais, on me laisse pleurer. Ouais, moi c'était comme ça. Là, quand même, il y a une différence, c'est qu'on peut rentrer, on peut amener de la douceur et de la fermeté. L'enfant, il se sent plus en sécurité comme ça. Et il n'y a plus besoin de parler en fait. Il y a juste besoin de poser les mains sur son dos pour que l'enfant se calme en fait. Et qu'il arrête de s'exciter. Parce que des peurs ancestrales peuvent venir. On ne sait pas ce qui se passe. Il y a une excitation avant de le coucher qui est assez compliquée à gérer. Et avec la rigolade, par exemple, en faisant des petites rigolades avant d'aller se coucher. Et ça permet de bien monter haut et puis comme ça de redescendre tranquillement et de pouvoir se poser et trouver le sommeil en moins d'un quart d'heure.
Et après avoir posé les mains, qu'est-ce qu'on fait?
On s'en va délicatement en lui souhaitant une bonne nuit et de faire un gros dodo.
Et là, magie, il ou elle ne part.
Ça, c'est la théorie. Quand tout se passe bien, c'est chouette, mais c'est pas toujours le cas. Il faut quand même dire qu'en ce moment, on reste dans la chambre des petits jusqu'à ce qu'ils s'endorment. Donc,
pas hier.
Ouais, ça dépend
des périodes. Oui, il y a des régressions.
Voilà.
Rien n'est acquis.
Quand tout roule, ok, on dit bonne nuit, on sort de la chambre et l'enfant s'endort.
Oui.
Mais il faut avouer qu'il y a plein de fois où j'ai envie de faire pipi, j'ai soif. On sent qu'il cherche toujours à nous retenir le plus longtemps possible et qu'on y passe une demi-heure à dire bon, ouais, allez, cette fois ça suffit, hein, tu dors. Hein.
Ouais, surtout qu'en fait, plus on est fatigué, moins on y arrive. J'ai l'impression. Si on est en forme, on arrive à s'affirmer et à faire comprendre à l'enfant qu'il n'a pas d'autre choix que de bien dormir parce que c'est la nuit et que la nuit, il n'y a rien d'autre à faire en fait.
Je crois qu'il a commencé à dormir vraiment tout seul dans sa chambre à 5 ans.
Léa.
Il en a 6 maintenant.
Et avant, comment vous faisiez?
On a fait du cododo, beaucoup. Beaucoup de cododo. Les premières années, j'avais un petit matelas de mon côté, à côté de moi, parce qu'il se réveillait hyper souvent la nuit. Donc,
et toi, tu faisais quoi?
Quand il se réveillait?
Ouais.
Alors, il m'a fait des phases complètement improbables. Il dormait sur le ventre et dans ses délires de la nuit, je sais pas ce qui se passait, il reculait. Donc, il sortait du matelas et je le retrouvais dans la chambre sur le carrelage froid. Et ça, une nuit sur deux. Donc, j'essayais de le parquer, qu'il ne puisse pas sortir. Enfin, il est très agité la nuit. Il a été hyper agité. En plus de ses histoires de somnambulisme, qui était quand même hyper récurrente. Et voilà, après, il y a eu cette période de séparation qui a été complexe. Donc, ça a influencé aussi sur le dodo. Et puis, quand les choses elles ont commencé à se tasser un peu et que le rythme, il était clairement établi, une semaine chez papa, une semaine chez maman, on a trouvé un espace plus doux pour le sommeil. Et puis j'ai acheté un lit superposé, donc ça a été la cabane, c'était génial. De lui-même, il a eu envie d'aller dormir là-bas. Donc ça a duré une petite année.
Ouais, la cabane, ça renvoie un peu à un cocon sécurisant.
Ouais, complètement.
Peut-être il n'aurait pas besoin de toi pour s'endormir.
Y a encore tout un rituel. Hein.
Alors, c'est quoi ton rituel?
Alors, nous, on a du coup l'histoire qui se lit dans mon lit. Ensuite, il y a le câlin qui est dans mon lit, qui est hyper important. Et puis après, il monte dans son propre lit. Moi, je ne peux pas y monter parce qu'il est trop proche du plafond. Donc, c'est une bonne excuse pour faire le dernier bisou. Voilà. Et quand je sors de la pièce, il faut qu'il y ait la lumière du couloir qui soit allumée et que je fasse du bruit. Voilà, il faut que je fasse la vaisselle, il faut qu'il entende que je sois là. Si jamais c'est le silence complet, c'est la grosse panique. Donc, volontairement, je brasse des trucs, je marche, je fais une tisane, il y a la bouilloire qui fait du bruit, enfin, ça le rassure. Voilà, puis au bout d'un moment, il lâche le morceau, quoi.
Alors, si le bébé pleure, qu'est-ce que vous faites ?
Alors, il y a plusieurs outils. Mais déjà, moi, j'ai envie de parler des trois principes que Anna Walgreen défend. Donc, pour info, cette femme, quand même, elle a eu 9 enfants et elle a endormi plus de 800 enfants. C'était son métier. Donc, elle est incroyable. Elle a dédié sa vie aux enfants et notamment, elle a écrit un best-seller qui a enfin été réédité en français il n'y a pas longtemps, qui s'appelle « Par amour des enfants ». Et là, elle parle de tous les stades de l'enfant de 0 à 16 ans. Et tu vois que cette femme, quand même, il y a quelques vidéos sur YouTube, on voit qu'elle a une connaissance de l'enfant dans sa physiologie, dans l'émotionnel, dans son évolution, qui est assez chouette, en tout cas qui a fait du sens pour nous. Et du coup, elle défend ces trois principes pour faire qu'un enfant dorme, c'est le calme, la sécurité et le plaisir. Donc elle détaille, les trois chapitres sont détaillés, je ne vais pas le faire ici parce que, de toute façon, quoi qu'il en soit, si on veut s'intéresser à son travail, c'est important de lire le livre de A à Z. Et ça, elle le redit plein de fois dans son bouquin. Donc une fois ces trois principes compris, il y a des outils qui vont concrètement apporter ce calme, cette sécurité et ce plaisir. Et c'est des outils très physiques. Donc c'est des outils où on va rentrer près de l'enfant pour lui montrer qu'on est bien là, mais on ne va pas rester près de lui, parce qu'en fait, on va le déranger si on reste. Mais par contre, on va bien lui faire comprendre que dès qu'il y a un problème, dès qu'il a peur, on est là. Et ça veut dire qu'on va gérer les choses en faisant des allers-retours dans sa chambre, mais surtout en sortant au plus vite pour garder son espace, mais depuis l'extérieur.
Du coup, moi, ce que j'aime bien aussi dans cette espèce de paradigme que j'avais, enfin, cette espèce de nouveau paradigme, c'est, en fait, c'est l'enfant qui se calme tout seul. C'est à lui de s'autonomiser, c'est à lui de s'endormir tout seul. Du coup, l'enfant, c'est pas à nous de le calmer, en fait. L'enfant, il a déjà cette capacité de se calmer, mais par contre, il a besoin de se sentir en sécurité pour ça. Et c'est un processus naturel, en fait, c'est même pas volontaire. Dès que l'enfant, il se sent en sécurité, il va se calmer tout seul. Du coup, déjà, l'état intérieur du parent, il va y jouer énormément parce que les enfants, c'est des éponges émotionnelles. Enfin, en fait, ils sont complètement sans filtre. Donc déjà, nous, après d'être déterminés, on rentre dans la chambre. Donc si l'enfant, il pleure, on rentre, on est là. Il n'y a aucun danger. Même nous, on n'est pas là. « Oh, ma mince, mon enfant, il est en train de pleurer. Qu'est-ce qui se passe ?» Déjà, si on rentre comme ça dans la chambre, bah, ça ne va pas le faire. Du coup, après, ça demande aussi... de se faire un petit check intérieur avant de rentrer dans la chambre. Mais voilà, rentrer de manière déterminée. Après, elle propose des outils qui sont intéressants en se connectant à l'enfant par le toucher, par les mains, pour pouvoir le calmer. Et ensuite, on sort. Et ce qui est intéressant, c'est que bah oui, l'enfant, il se calme, en fait. L'enfant, il va pas... En fait, si on est là... au moment où il faut, quand il pleure, direct on rentre. Il va jamais monter dans les tours. Par contre, c'est en effet, si on attend, qu'on le laisse pleurer ou quoi, ouais, il va monter. Mais si on montre une présence, et puis après, il va s'habituer, en fait. Il va se gérer, il va arriver. Après, ça va être comme une routine. Lui, il va savoir qu'on est là. Dès qu'il a une insécurité, tac, sinon on monte de la présence, bah, automatiquement, bam, il va se calmer tout seul, quoi. C'est vraiment une autonomisation de l'enfant pour s'endormir. On va pas être là à le bercer jusqu'à ce qu'il s'endorme, rester avec lui. Tout ça, c'est ultra. Ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie en tant que parent. Déjà, rien qu'en faisant la méthode. Quand on en a deux, de les coucher, machin, le rituel du dodo et tout. Voilà, tous les parents savent que c'est un challenge de gérer tout ça.
Oui, parce que de connu, il y a deux techniques. C'est soit du coup prendre le bébé ou la prendre dès qu'elle pleure, tout de suite la retirer du lit, la bercer hors du lit, la remettre. Ou alors
laisser pleurer son enfant, c'est chaud. Hein. Enfin, en tant que parent, je dis c'est chaud. Je dis c'est pas un jugement, c'est dur de laisser pleurer son enfant. Ça fait. Donc déjà, en tant que parent, je crois que enfin, on a déjà ce radar intérieur qui dit que là, il y a un souci. Mais après, pour pouvoir le faire, faut... enfin, c'est
au-delà de en tant que parent, c'est en tant qu'humain, on est câblé, on a un instinct de protection qui fait que quand on va entendre un bébé pleurer, même si c'est un homme d'affaires qui est à fond et qui est complètement débordé, dès qu'il va entendre un bébé pleurer, il va tout de suite se dire « Mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Où est la mère ?» Il y a vraiment un instinct de vouloir faire qu'un bébé ne pleure pas.
Premier passage à la radio. Alors on dit qu'il y a deux choses, deux façons de faire. Soit le bébé pleure, donc du coup on est la nuit, le bébé pleure, soit on vient et on part, soit on le prend pour jusqu'à ce qu'il s'endorme dans nos bras. Enfin, il y a plusieurs choses. Mmh. Toi, comment t'as fait ?
Moi, je répondais toujours à ses pleurs. J'allais tout le temps le voir. Il y avait un truc aussi, c'est qu'on n'a pas utilisé la tétine en se disant on va pas lui mettre une addiction, là, un support dont il ne saura pas se défaire. Donc en fait, à recommencer, je pense que je lui mettrai une tétine. On a utilisé le petit doigt.
Ton petit
doigt. Et alors là, c'était horrible. En avoir des crampes dans la main à plus en pouvoir. À chaque fois que sa petite bouche se détend parce qu'il s'endort et qu'il lâche le doigt, tu sais, tu retires tout doucement. Et en fait, il le sent partir et hop, il le rattrape et il repart encore pour une demi-heure. Et ça, c'était juste... Vraiment, des fois, tu te dis, mais c'est pas possible, c'est des tyrans, quoi. C'est des tyrans, ces bébés. C'est un asservissement total. Donc, je comprends les outils. Et je pense qu'à refaire, ou si un jour j'avais à nouveau un enfant... Je m'intéresserais grandement à ces méthodes qui existent en fait, hein, ouais. À nous permettre de prendre du recul émotionnel aussi et ce détachement physique qui n'est pas évident parce qu'une maman elle porte son enfant et on dit qu'un petit être humain il a besoin d'être porté encore 9 mois en fait, mais comme il serait trop grand et qu'on ne pourrait pas le porter, il naît avant d'être autonome, de pouvoir vraiment être marcher à 4 pattes, se débrouiller pour manger de la purée ou un bout de pain. Mais du coup, pendant 9 mois encore, tu le portes. Moi, je sais qu'Aiwa, il fallait que je le porte avec un tissu encore pendant 9 mois sur moi. Et du coup, ce détachement physique, quoi, vraiment de faire une coupure entre le bébé et soi-même, qui n'est pas évident.
Moi, ce que je voudrais dire, c'est que... je voudrais dire qu'Anna Walgreen, elle est assez controversée parce qu'on est aussi dans une période, dans une société où on prône vachement le cododo jusqu'à 4-5 ans et de revenir un peu en mode tribu africaine, etc. Moi, je voudrais juste dire que je ne suis pas africaine. Je voudrais juste témoigner que mes deux filles sont nées à la maison. Elles sont nées, une avec sage-femme, l'autre sans sage-femme. On est deux personnes qui s'intéressent vraiment, qui sont passionnées du vivant et des lois du vivant et de qu'est-ce qu'il y a de meilleur pour un enfant, qu'est-ce qu'on peut lui apporter comme cadre, moi je prône l'allaitement à fond. Donc je suis maman très proche, j'ai pas envie de mettre mon enfant à dormir juste pour retourner bosser, c'est pas ça du tout l'idée. Mais par contre, pour moi c'est un cadeau immense que de leur donner le goût du sommeil et que du coup elles se construisent grâce à cette régénération qui est tellement importante qui ne peut se faire que dans le sommeil et dans des nuits longues. Et j'entends beaucoup de personnes autour de moi qui ont encore des enfants de 11-12 ans et qui sont obligées de rester avec eux dans leur chambre pour qu'ils s'endorment, donc qui du coup n'ont pas une sécurité intérieure suffisante. Et je me dis que là c'est vraiment pour les enfants un super beau cadeau que de leur donner cette sécurité intérieure à travers l'endormissement qui est comme un peu une petite mort, le moment où ils doivent s'abandonner et se relâcher, et le fait qu'elles puissent le faire toutes seules en sachant qu'on est là, je trouve ça vraiment magique.
En tout cas, du coup, pour revenir un peu à ta question là, ouais, il y a deux méthodes, enfin tu prends l'enfant et tu le pendant quand il pleure et ou alors quand tu prends un enfant quand il pleure ou alors tu le laisses pleurer. Et bah bon, déjà, nous, on a eu la chance d'avoir ces données-là avant même d'avoir les enfants. C'est-à-dire qu'avant même d'avoir des enfants, on avait déjà ce bouquin en main, donc on était déjà prêts. Ça n'a pas été difficile pour nous. Mais pour beaucoup de parents, ça fait 2 ans qu'ils ont une routine et c'est compliqué. Et je peux comprendre qu'il y en a qui choisissent de laisser pleurer l'enfant parce qu'ils n'en peuvent plus, parce que le manque de sommeil, ça rend fou. Et en plus, on n'est pas du tout éduqué à endormir nos enfants.
Il y a un article que j'ai trouvé, ça s'appelle « Quelques conséquences du laisser pleurer » de Claude Didier-Jean Jouveau. Parce qu'en y réfléchissant, voilà, moi, on m'a... Enfin, je sais qu'il y a des gens, dont moi et mes sœurs, qu'on a relativement laissé pleurer, donc pas complètement, évidemment, mais que je vois des conséquences aujourd'hui, au moment de dormir, où la dépendance affective au couple, par exemple, est importante. Que, voilà, une fois qu'on est amoureuse, quoi, dormir sans cette sécurité qui vient de l'extérieur, elle nous empêche, en fait. Moi, en tout cas, je fais des angoisses, etc. Donc voilà, cet article, je vous conseille quelques conséquences du laisser pleurer. De toute façon, je vais mettre toutes les petites références, dont le livre, du coup, de Anna Wahlgren.
So classe.
Ça se trouve, ça se dit pas comme ça en suédois.
Ça,
hein.
Se dit pas Wahlgren. Hein.
Wahlgren.
Wahlgren.
Et donc ça a marché, voilà, une petite année. Et puis voilà, là, on a les peurs, quoi. Les peurs qui complètement irrationnelles. 6 ans, moi, je me rappelle de ça. La peur de la mort, la peur des monstres.
Ah oui, non, mais ça, c'est encore, encore un autre,
oui, c'est encore un autre âge. Sujet.
Et je pense que même, en fait, le sommeil, c'est une histoire d'une vie.
Ah bah aussi. Complètement, ouais, ouais.
Parce que chaque moment de vie, chaque période de la vie a ses cycles. Il y a 20 ans, à 15 ans déjà, donc tu as un sommeil d'ado.
Ouais, où tu as besoin de dormir.
Tu as besoin de dormir super longtemps, t'endormant tard le soir. Puis je sais pas, à 30 ans, bah, tu es maman ou papa. Et là, du coup, tu dors plus.
Ouais, c'est clair.
40 ans, tu as les insomnies. 50 ans, tu as encore les insomnies.
Enfin, c'est cool.
C'est un truc de. En fait, c'est vraiment. Pourquoi alors moi, j'allais me répondre à moi toute seule, mais pourquoi pour toi, le sujet du sommeil de Sacha était. Pourquoi est-ce que c'est un vrai sujet, à ton avis? Le sommeil des bébés. Parce que, voilà, en plus, les premiers instants sont, à mon avis, les plus cruciaux.
Et ouais, ben parce qu'il y a une injonction à plein de choses. On sait que la santé dépend du sommeil. Et du coup, bah, forcément, ça fait peur à un enfant qui ne dort pas. Tu as peur qu'il soit en mauvaise santé. Tu as peur que. Enfin voilà quoi, il y a l'alimentation, la santé, le sommeil, c'est des choses qui sont intimement liées. On dit que les 3 premières années de vie d'un enfant, il faut être hyper présent, c'est les années qui vont structurer. Donc il y a une grosse pression aussi pour bien faire, couplé à l'allaitement, les vaccins, tout le bordel. Enfin c'est quand même un sacré package en fait de devenir parent. Et au fur et à mesure, bah, t'abordes plein de trucs. Et puis voilà, c'est la loterie, tu sais pas sur qui tu vas tomber. Donc... ouais, je suis tombée sur un enfant qui dormait pas beaucoup. Je sais pas, il fallait identifier les pleurs en fait. Si c'était des pleurs de j'en peux plus, faut que ça lâche. Si c'était des pleurs de maman reste, j'ai peur. Après, il y a tellement de trucs qui se passent dans la tête. Enfin, je faisais des projections aussi en me disant mais il me la met à l'envers, c'est pas possible, il me manipule. Mais c'est pas possible, c'est un bébé de 9 mois, donc non. Mais ouais, je me rappelle de crises de nerfs où il était dans son petit lit et il hurlait. Moi, ça me faisait monter la sauce. Et plusieurs fois, je suis partie m'oxygéner dehors quoi, pour éviter de péter les plombs. Et puis c'est des scènes que j'ai globalement vécues seule. Ou alors la nuit, du coup, quand son père était à côté de moi, il se rend, parce que lui, il dort comme une tombe. Il n'y a absolument rien qui le réveille, quoi. Tu peux faire exploser de la dynamite à côté, il dort le mec. Globalement, ça a été pour moi aussi ça. C'était ma mission le jour, parce que j'étais seule le jour, il travaillait, mais c'était ma mission la nuit. Et du coup, c'était devenu un truc quasi obsessionnel, quoi. Il ne dort pas, il ne dormira jamais, jamais, jamais. Et du coup, voilà, il y a des moments où il s'est réveillé, son papa, mais c'est parce qu'il m'entendait péter les plombs. Donc du coup, on se prenait la tête parce qu'il me prenait pour une hystérique, mais ce qu'il ne voyait pas, c'est que ça faisait des mois que je ne dormais pas, quoi. Et du coup, oui, il y a des moments où ça monte en pression. Je me suis vue à un moment récupérer mon môme qui avait encore fait une marche arrière sur le carrelage, le prendre et le jeter dans son lit.
Alors, on sait que dans le DIY, il y a beaucoup d'enfants et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont confrontées à cette période de vie où on ne dort pas, où il y a des répercussions psychologiques dans la vie conjugale, à la maison, professionnelle, etc. Est-ce que vous avez un mot ou quelque chose à dire à ces personnes?
Moi, je ne peux que leur conseiller de lire « Au dodo les petits ». Après, j'entends qu'il y ait des personnes qui ne soient pas capables de le mettre en application, à la lettre du moins, qui peuvent s'en servir, de trouver des outils dedans.
Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas le mettre à la lettre tout de suite? Il y a des circonstances?
Je sais pas si avec mon premier enfant j'aurais été capable de faire ça. Il y a quelque chose de compliqué quand même de laisser son enfant pleurer et de lui répondre juste par une comptine. Moi, quand le premier pleurait, criait, hurlait, j'avais besoin de le prendre dans les bras. Et là, il ne faut pas, en fait. Enfin, c'est pas qu'il ne faut pas. On peut se faire un câlin, mais à partir du moment où on le sort de son lit et qu'on le prend dans les bras, ça veut dire que tu as raison de... T'es en insécurité dans ton lit et si je te prends dans mes bras, ça va aller mieux, je te sauve. Alors du coup, forcément, quand on le repose dans son lit, eh ben, on le reconfronte à l'insécurité et il n'a pas envie. Donc on entre dans un cercle vicieux. Donc il faut avoir le courage de se dire je le laisse pleurer, mais pas pour son mal évidemment, c'est pour lui faire comprendre que justement il n'est pas en danger et que je vais le rassurer par la voix. Moi ça m'a demandé un effort incroyable, hein. les premières nuits j'en avais les jambes flageolantes, hein, de répéter la comptine en disant allez je vais pas dans sa chambre, je ne rentre pas, je vais pas le prendre dans mes bras, je vais juste le rassurer par la voix.
C'est un déchirement en fait.
Ah ouais, pour moi ça a été un déchirement, c'est peut-être pas le cas pour tout le monde mais...
Le père a son rôle à jouer ici, qui est très important, c'est de reprendre, de soutenir la mère dans ce que vient de dire ma compagne. C'est-à-dire, il y a ce déchirement qui se fait entre la mère et l'enfant, et on est là pour le...
Ouais, pour soutenir ça.
Pour
quoi.
Le soutenir, oui, voilà. Pour c'est-à-dire continuer. De prendre le relais, de dire, bon, bah voilà, maintenant, c'est toi, t'es fatigué, c'est moi qui vais faire le relais, et je vais aller coucher l'enfant pour te soulager, pour t'enlever cette douleur-là, en fait.
J'ai l'impression qu'il y a un truc de rapport à l'enfant, en fait, non ? Ce basculement vers un peu un détachement, vers... J'ai l'impression que, voilà, Anna Wahlgren essaye de nous dire que ça soit plus une fusion, quoi, entre le parent et l'enfant au moment du coucher ou au moment où il est en insécurité et que nous, on apporterait cette sécurité au moment du dodo et, en fait, s'en détacher. Après, il y a le truc aussi de laisser pleurer. Donc ça m'interroge.
En premier, par rapport au détachement, effectivement, Anna Wahlgren, elle le dit, je ne sais plus si c'est dans Au dodo les petits ou dans un autre livre, c'est quoi, Par amour des enfants. Elle explique qu'elle a été mère très jeune, à 19 ans, si je me souviens bien, et que ses enfants, d'ailleurs, ne l'ont pas appelée maman, ils l'appellent Anna. Elle a déjà un détachement naturel, c'est un peu presque comme ses petits frères et ses petites sœurs. Quoi. Bon, c'est quand même pas ça, mais... Elle s'en occupe avec tout son amour et super bien, mais elle a l'impression d'être moins quelque part maternelle que d'autres mamans qui ont cette possession un peu avec leur enfant. C'est pour ça que je dis moi avec le premier j'aurais eu du mal, peut-être avec les deux autres il y a un petit détachement qui se crée au fur et à mesure. Anna Wahlgren elle en a eu 9 donc le détachement elle a dû connaître ça.
Alors quand est-ce qu'on commence cette technique concrètement pour aider les parents là qui vont nous écouter, quand est-ce qu'on commence? Et quand est-ce qu'on finit? Jusqu'à quand? Est-ce qu'il n'y a que la nuit que ça se passe?
Alors, bon, Auréane, elle est plus calée. Moi, je suis plutôt instinctif, mais elle a bien suivi, elle a bien lu le bouquin et tout. En tout cas, pour dire, quand est-ce qu'on commence? Mais avant même la naissance de l'enfant. C'est-à-dire qu'avant même la naissance de l'enfant, c'est important de se renseigner avec le sommeil, sinon ça va être la galère. Je vous le dis, ça va être la galère.
En fait, Anna Wahlgren, elle parle d'une posture intérieure en tant que parent qui est l'attitude d'évidence. Et cette attitude d'évidence, c'est la nuit, rien ne se passe. La nuit, tout le monde dort. Et donc, si toi, en tant que parent, tu incarnes ce la nuit, rien ne se passe, en fait, tu vas transmettre ça à ton enfant. Donc, cette attitude d'évidence, déjà, elle demande justement à soi... d'avoir aussi travaillé sur sa propre histoire. Parce que si, en effet, on nous a laissé pleurer petit et qu'on a un stress particulier à cet endroit-là, la peur d'être abandonné ou de ne pas être entendu quand on pleure, ben, du coup, ça peut aussi se répercuter sur les enfants. Et donc là, c'est déjà c'est déjà une remise en question pour soi-même, déjà. Est-ce qu'on est prêt, surtout en tant que maman, parce que la fusion mère-enfant, elle est tellement forte, que laisser son enfant la nuit dans son espace, c'est plus pour la mère que c'est difficile que pour l'enfant, finalement. Et c'est là où la présence du père, elle est hyper fondamentale. Parce que Vincent, il m'a permis, avec Anna, d'accepter, en fait, que Anna puisse dormir sans moi et qu'elle dorme bien. Et qu'elle soit en sécurité. Et ça, c'est vrai que c'est le papa qui amène cette sécurité-là. Et pour répondre à ta question, donc la cure est à partir d'un bébé de 4 mois, parce qu'Anna Wahlgren estime qu'à partir de 4 mois, un bébé n'a plus besoin d'être allaité la nuit. Et donc, il peut dormir 12 heures d'affilée. Et tu peux faire cette cure avec ton enfant jusqu'à 12 ans. Et ça pourrait même théoriquement marcher sur des adultes. Parce que si tu fais un petit sondage autour de toi, tu vois que des gens qui dorment pas bien la nuit, il y en a beaucoup. Et que si on creuse un peu, le sommeil, ça a toujours été problématique depuis l'enfance.
Par quoi on commence, franchement ? Ouais, c'est vrai qu'il faut lire le livre. Et après, elle propose, donc, par exemple, pour des parents qui galèrent, l'enfant, il dort pas, il a un an.
Oui, voilà, imaginons ça, ouais.
Et bah, déjà, il faut lire le bouquin entièrement. Et ensuite, elle propose une cure, mais il ne faut pas se poser de questions, il faut la suivre de A à Z, quoi. Et puis après, bien sûr, c'est à géométrie variable en fonction du temps. Mais déjà, suivre, ça, c'est vachement aidant aussi de se reposer sur un truc qui est déjà calé. Et puis aussi, ne pas hésiter à aller voir des parents qui ont déjà pratiqué cette cure, qui peuvent aider. Parce que des fois, il y a des outils qui sont expliqués dans des livres, mais qui ne sont pas forcément clairs. Puis en plus, il y a des vidéos sur Internet. On voit Anna Valgren qui pratique certains outils sur des enfants. Et des fois, ça peut être un peu choquant.
Ah oui, j'ai vu, il y a un terme.
Flapoter.
Le flapotage.
Ouais.
Flapoter. Alors, ça consiste en quoi et pourquoi c'est critiqué ?
Bah, déjà, il faut voir la vidéo. Il y en a plein, ça les choque, ils pensent que l'enfant il est maltraité. Nous, on ne l'a jamais flapoté. Anna, on l'a flapoté. En fait, c'est un outil de bercement où on vient poser la main sur le dos de l'enfant et on vient avec le poing, en fait, taper. C'est pas vraiment taper, c'est tapoter, flapoter, quoi. Souplement sur les fesses. Et en fait, ça fait comme un petit rythme comme ça de bercement. Mais on peut déjà essayer sur quelqu'un d'adulte, et en fait c'est vrai que ça fait du bien.
Ouais, moi pour un petit témoignage au Maroc, puisque je suis d'origine marocaine, on fait le flapotage depuis, enfin j'ai toujours vu faire ça, les mamas, elles le font en position verticale, et elles prennent les fesses comme ça, et paf, paf, et puis ça, c'est vrai que ça peut paraître un peu, parce que l'enfant sautille comme ça, mais ça le calme tout de suite, enfin ça le calme, en tout cas c'est comme ça qu'elles réagissent, les mères là-bas. Parce que oui, on est ici en France, mais ça, évidemment... Il y a 10 000 autres façons de coucher l'enfant. Ouais.
Alors moi, ce que j'ai pu constater, c'est qu'un enfant, en fait, il est vachement sensible au rythme et aux habitudes qu'on lui donne. Du coup, pour moi, une des clés de la méthode, ou en tout cas de nous, comment on pratique. Parce qu'après, finalement, nous, ce qu'on fait, voilà. L'enfant, on le couche toujours à la même heure. On peut varier de 15 minutes, mais pas plus. Au début, hein. Après c'est free, une fois qu'il a intégré le sommeil, la sécurité et tout ça, même l'enfant il va demander de dormir même chez d'autres gens et tout ça. En tout cas, voilà, toujours à la même heure, pareil pour les siestes, toujours à la même heure et rythmé en fait. Une fois qu'il a 4 mois, l'enfant il fait ses 12 heures par nuit, donc les nuits ça change pas, il fait toujours 12 heures et puis caler les siestes qui vont après par la suite, là elle fait 3 siestes par jour. Après, ça va passer à deux. Ah ouais ? Ah ouais ? C'est vrai, hein ? Et du coup, l'enfant, il s'imprègne, en fait, vraiment de ce qu'on va lui mettre comme rythme, quoi.
Je crois qu'elle a envie de communiquer.
Ah. Du coup, en fait, voilà, il faut prendre... moi, je pense... Enfin, en tout cas, moi, ça m'a vraiment fait... Ça m'a vraiment... J'ai vraiment pris conscience de ça et je me suis dit, bah oui, en effet... Un enfant, en fait, on peut l'habituer. C'est nous, en fait, qui choisissons. C'est nous qui choisissons quand l'enfant, il dort. L'enfant, il arrive sur Terre. Il vient d'un endroit, il était à l'envers. La tête à l'envers. Il n'avait pas de jour, pas de nuit. Dans la nuit, l'enfant, il bouge quand la maman, elle dort. Enfin, voilà, il fait sa vie. D'un coup, il sort, il arrive là. C'est à nous de lui montrer comment ça se passe, en fait. Et si on arrive et que c'est pas clair, qu'on n'a pas un positionnement clair, il ne peut pas comprendre. Il va faire comme il sent, mais du coup, lui, il le sent pas, il sait pas, en fait, il sait pas comment ça se passe ici. Après, bien sûr, une fois que c'est réglé, voilà, la nuit, rien ne se passe. Tout le monde dort, et ben voilà.
Et pour rassurer par rapport à la cure demande 4 jours, 4 nuits et une semaine de suivi.
Et après... D'accord, donc c'est pas imminent. Ce n'est pas...
Alors, au bout de la deuxième nuit, déjà, tu vois des résultats. On va dire que la première nuit, ça peut être la pire selon quelles sont les habitudes de ton enfant. Si ça fait 3 ans que ton enfant ne dort pas la nuit ou qu'il se réveille toutes les 3 heures, forcément, le jour où tu vas commencer la cure, il ne va pas comprendre parce que c'est un changement de paradigme pour lui. Donc du coup, il va poser des questions.
Est-ce qu'il faut lui dire qu'on commence quelque chose ?
Quand l'enfant a 3 ans, oui.
D'accord, on dit
évidemment, là... quand c'est un bébé, même avant. Hein.
En tout cas, si à partir du moment où il y a du langage, oui, ça, c'est intéressant de lui dire. Mais même bébé, ça peut être possible aussi de lui dire, bah écoute, maintenant on a
décidé que ça peut aider
et que nous allions aussi dormir. Donc c'est vrai que quand on le fait d'abord pour l'enfant, parce qu'un enfant qui dort, c'est un enfant joyeux, c'est un enfant qui mange bien, c'est un enfant qui n'a pas de colique, parce que les coliques, c'est un peu un mythe, mais un enfant qui dort, normalement, n'a pas de colique, un enfant qui dort suffisamment. C'est un enfant qui va bien, qui grandit, qui s'épanouit, et un enfant, il est fait pour être joyeux, en fait. Et un enfant qui dort pas, c'est terrible. On a vu le peu de fois où Anna ou Nour n'ont pas fait leur sieste dans les temps et où elles étaient fatiguées, mais c'était insupportable. Et du coup, je me dis, waouh, il y a des parents, en fait, qui vivent ça pendant des années, et c'est la torture pour l'enfant, pour les parents, pour toute la famille, surtout quand il y a une fratrie. Et donc, le sommeil, c'est un cadeau inestimable qu'on peut leur faire dès le plus jeune âge.
Et puis aussi, il y a le sommeil des parents, parce qu'il y a le sommeil des bébés, mais il y a aussi le sommeil des parents. Voilà.
Et un parent qui ne dort pas, ça fout le bazar dans le couple, dans la famille, dans le travail, partout.
Moi, à un moment donné, ça a vraiment été difficile pour moi, le voyage. Le mouvement tout le temps, d'être maman et cette fatigue, et voilà. J'ai fait un burn-out et à un moment donné, il a fallu que j'aille prendre soin de moi, que je m'écarte. Et ça, c'était du coup un choix personnel, mais que je me soigne pour pouvoir à nouveau être là auprès de lui. Donc en fait, on s'est séparés pendant un temps. Il est resté avec son papa. Et c'est son papa qui lui a donné du lait, et qui s'est occupé de lui, qui l'a endormi, etc. Le temps que moi, je me repose. Donc, il y a eu cette coupure. Et après, on a recréé les liens, etc. Et ça avait changé beaucoup de choses. Voilà. Moi, c'est ça, mon histoire de coupure avec lui. Ça a été vraiment très, très éprouvant. Mais je pense que le voyage a joué aussi.
Oui, donc il y a tout un contexte, évidemment. Ce que je voulais aussi dire en rajoutant, c'est que la détermination biologique, comme quoi une mère aurait un instinct qui ferait que l'enfant pourrait dormir mieux, en fait, ça perpétue nos comportements qui confirment qui confirment des rôles qui pèsent sur les rôles dits féminisés. Et que en fait, faut objectiver tout ça et qu'un être humain, non humain, qui doit dormir, il a besoin d'une sécurité, qu'elle soit féminine, qu'elle soit masculine, il a besoin d'une sécurité.
On aurait plusieurs des témoignages de maman.
Bah oui.
Après, je pense que c'est un truc qui se perpétue comme une sorte d'évidence.
C'est l'excroissance. D'essentialisation.
Voilà, de ton enfant. Et du coup, bah ouais, c'est ok, c'est le jeu, c'est comme ça, t'es maman, quoi. Et même moi, je me suis mise cette propre injonction.
Mais disons-le,
à être la maman parfaite, mais je suis allée loin dans ce que je me sentais, dans l'objectif final, les couches lavables, les petits pots maison, le jardin, les machins, l'allaitement jusque tati, suivre tout pas à pas. Je me suis vraiment monté dans ma tête le package de la maman parfaite, sauf qu'en fait il arrive un moment où tout ça peut s'écrouler parce que je suis fragile, parce que je dors pas, parce que ça me demande beaucoup, parce que j'ai pas d'espace où je vais me ressourcer socialement, culturellement, je suis en vase clos. Donc au bout d'un moment, ma maman parfaite, elle s'essouffle, et j'en veux à mon fils d'être là et de m'avoir enlevé une partie de ma vie, sauf que c'est pas à cet endroit-là que ça se doit jouer, mais ça a fait partie des cheminements que j'ai eu dans ma tête, quoi. Il y a eu des moments où j'ai regretté ma maternité.
Il y a un livre qui s'appelle Le regret d'être mère, je crois.
On m'en a parlé.
On t'en a parlé.
Ouais, j'en ai.
Et je vois que dans le Diwa, en tout cas dans le cercle social que je fréquente, il y a beaucoup de parents et de parentes, donc des femmes qui sont célibataires avec leur enfant et qui sont jeunes et qui peuvent avoir cette culpabilité-là d'avoir des situations où elles auraient échoué dans le modèle. Dans le modèle qu'on a de la maman parfaite, mais qui n'existe pas. La femme parfaite n'existe pas, l'homme parfait n'existe pas, ce sont des conditionnements sociaux et des conditionnements qu'on dirait biologiques.
Il y a énormément d'écrits, là, modernes, d'envisager la parentalité différemment. Et du coup, il y a un regard et des nouvelles méthodes qu'on propose, qui sont censées orienter un nouveau biais dans l'approche de la parentalité. Mais toutes ces informations... quand tu veux bien faire, quand tu te questionnes, quand tu recherches, ça devient une espèce d'énorme package de trucs qu'il faut faire quand tu as conscience que tu veux déconstruire plusieurs schémas et du coup tu as les lectures associées, ça devient aussi un nouveau phénomène sociétal d'éduquer différemment parce qu'on a envie que les choses elles évoluent, mais du coup il y a aussi une injonction à coller à ça et du coup essayer de jongler entre tout ça avec toutes ces lectures, avec toutes ces nouvelles méthodes de parentalité, des fois moi, je me suis retrouvée complètement perdue. Mais après, je n'ai pas appliqué des méthodes purement et simplement. Tu vois, j'en avais entendu parler des 5, 10, 15, tu laisses pleurer 5 minutes, puis 10 minutes, puis 15 minutes. Ça me semblait tellement barbare. Je me suis dit, non, mais ça, je ne veux pas faire ça. Enfin, déjà, 5 minutes, ça m'attrape l'utérus. Mon fils, il hurle, je ne peux pas, quoi. Et je me revois avec Romain dans le salon. Il me disait, non, attends, encore 5 minutes, attends, encore 5 minutes. C'était horrible de faire ça. Enfin, ouais, il existe toutes sortes de méthodes, si bien que tu ne sais même plus quoi appliquer, quoi.
Ouais, moi j'aime bien voir une famille comme une entité, quoi, comme une ruche avec toutes ses abeilles. La famille, c'est vrai que s'il y a un membre de la famille qui va pas bien, ça veut pas dire que la famille va aller mal, mais en tout cas, il va y avoir une répercussion. Et c'est vrai que des parents qui dorment, déjà, franchement, moi qui suis de nature, on va dire, nerveuse, des fois avec les enfants, je peux m'énerver. Dès que je suis fatigué, c'est encore pire. Et du coup, le fait de pouvoir dormir, mais c'est énorme, quoi. C'est un super cadeau pour moi.
Et aussi rassurer les parents que si votre enfant s'endort au sein ou s'endort à la sucette, il va oublier ça très très rapidement. C'est-à-dire que les outils qui vont être pratiqués pendant la cure vont lui apporter une sécurité telle qu'il n'aura plus jamais besoin de la tétine.
Dès le premier jour. Nour, notre première, elle n'a jamais eu de tétine. La deuxième, on en a pris une. Voilà, c'était finalement plus pour me rassurer moi, parce que péter les plombs parce qu'un enfant, il pleure. Et moi, j'en avais marre. Du coup, je me suis dit, je prends une tétine. Franchement, la première nuit, plus de tétine. Voilà, c'était passé, c'était fini.
Sachant que nous, on n'a pas fait la cure, puisque comme on avait cette confiance liée à l'expérience qu'on a eue avec notre première, on n'a pas eu besoin de faire la cure pour la deuxième. C'est juste en mettant en place cette attitude d'évidence intérieure et quelques outils. On n'a même pas eu besoin de flapoter Nour ni de la bercer dans le landau. Ça a été avec peu d'outils, notamment la comptine qui est cruciale dans le livre, dans la méthode d'Anna Walgreen. C'est une comptine très simple qui va être un repère pour l'enfant et qui fait que tu n'as plus besoin d'entrer dans sa chambre et d'intervenir physiquement. Tu es juste derrière sa porte. Et après, une fois que l'enfant dort, il n'y a plus besoin d'aucun outil. C'est-à-dire que tout ça, c'est au début, c'est pendant l'espace de la cure.
Mais attends, du coup, la comptine, tu lui dis en dehors de la pièce, en fait. Oui, donc c'était, on revient à l'allégorie de ce guide-là qui protège la tente du safari, des prédateurs qui pourraient y avoir autour. Oui, ça fait sens.
Ah oui, elle insiste beaucoup sur la notion du plaisir d'aller au dodo, et notamment sur un moment de rigolade avant le coucher. Parce qu'on a toujours tendance à penser que l'enfant, avant d'aller au dodo, il faut commencer à faire le calme, éteindre des lumières, lire une histoire, blabla. Mais en fait, l'enfant, il a besoin de se décharger par le rire avant d'aller dormir, et pour qu'il associe en fait le plaisir, le rire, la joie à l'endormissement. Et donc du coup, l'idée, c'est quand ils sont bébés, c'est de l'amener dans son lit en faisant l'avion, ou de faire un moment de décharge rigolote avant d'aller dormir pour les plus grands. Et on a vu que ça fonctionne super bien.
Ah ouais, ouais, moi, la Anna, donc 4 ans et demi. Alors c'est le truc qui est en même temps super énervant, genre le moment du « bon allez, faut aller au dodo », et là, au moment de lui mettre le pyjama, elle commence à courir partout, sauter de partout. Et en même temps, de se prendre au jeu, de jouer à fond avec elle, de pas hésiter à vraiment... Moi, je lui fais des guillis, elle en peut plus et tout. Je me dis, mais non, mais elle va être trop excitée, elle va jamais dormir. Et en fait, paf, dès que je la mets au lit, direct, c'est le moment, hop. Je sors direct, j'ai pas besoin de rester à côté d'elle.
Du coup, quand le deuxième pleurait, tu devais le laisser pleurer et juste dire la comptine.
Ouais.
Mais du coup, il, quand même, il appelait, quoi.
Ouais, c'est ça. Ah oui, oui, il pleure, le, il crie, il hurle.
Voilà, faut pas que les auditeurs, auditrices croient que d'un coup... Enfin, il y a un peu cette magie d'Anna Wahlgren.
Ouais.
Voilà, faut pas faire de la mauvaise information. C'est-à-dire que si vous essayez cette technique, il y a des aléas.
Ah bah ouais, faut être préparé à entendre les pleurs d'un bébé comme des questions et pas des appels au secours. C'est... Est-ce que je vais survivre ? En fait, c'est un peu ça dans les pleurs. Et donc, nous, par notre attitude et notre comptine, on est là pour dire, bien sûr que tu vas survivre, il n'y a pas de danger. Même s'il y avait un danger, je suis là, en fait.
En tout cas, à tous les auditeurs et à toutes les auditrices, ne vous mettez pas toute la faute sur vous quand l'enfant ne dort pas, quand il ne mange pas certaines choses, etc. Voilà, dédouaner le rôle parental aussi, parce que l'enfant, il est un être à part entière, quoi, et qu'en fait, on fait avec.
Bon courage à tous les parents. Soyez forts.
C'était Au dodo les petits. Je remercie toutes les personnes qui ont participé à cette déambulation. À bientôt chez RDIWA.